chavirait. La police portugaise a une autre version. Le couple voulait se débarrasser du corps en pleine mer pour voler le bateau. Seulement voilà, la tempête aurait contrarié leur plan. Car les analyses montrent qu'André Le Floch n'est pas mort noyé. La victime aurait été étranglée, puis ligotée et lestée avec une ceinture de plomb. Une véritable machination, répond Corinne Caspar, qui dénonce une mise en scène des enquêteurs. Autrement dit, selon elle, c'est la police qui aurait lesté le corps pour qu'il coule en pleine mer. À Lisbonne, Olivier Bonhomme ici pour France Inter.
Voilà, ce sera le mot de la fin. On se retrouve dans une minute.
TGV a créé TGV Pro. Pourquoi ?
Parce que le pro est toujours débordé. Sinon, ce ne serait pas un pro. Et le pire, quand on est débordé, c'est d'avoir une réunion à décaler. Mais le pro s'en moque, car son billet TGV Pro est flexible. Et quand le pro arrive à la gare, il n'a pas à attendre son taxi. Car un vrai pro sait déléguer les tâches. Alors c'est le taxi qui attend le pro. C'est ainsi que le pro arrive à l'heure en réunion, ce qui le distingue de l'amateur.
Service soumis à condition. TGV Pro, la nouvelle offre de TGV pensée pour les professionnels.
SNCF.
Message radio DF pour les professionnels, 30 secondes. Alors top chrono, avec assistance dépannage 2 heures en cas de panne sur votre installation électrique intérieure, un spécialiste intervient en moins de 2 heures. Bon, je pourrais ajouter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, etc. Mais en 30 secondes, ça ne serait pas très pro, non?
Pour vous accompagner dans vos choix énergétiques, appelez plutôt votre conseiller EDF Pro au 0810 333 776, prix d'un appel local, ou consultez edfpro.fr.
L'avenir est un choix de tous les jours. EDF.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Il est 13h30, l'heure de 2000 ans d'histoire. Bonjour Patrice Gélinet.
Bonjour Fabrice Drouel.
Au sommaire aujourd'hui?
Aujourd'hui, en partenariat avec l'Atlas des religions, publié par l'hebdomadaire La Vie et le Monde, l'islamisme en Algérie.
Que la paix revienne à l'Algérie! Halte au terrorisme, vive l'Algérie, la paix, que la paix nous revienne. On en a assez. On veut de la paix pour cette Algérie.
D'histoire. En 1992, 30 ans après la guerre qui les avait opposés à la France, les Algériens étaient victimes d'une deuxième guerre qui, en 10 ans, a fait plus de 150 000 morts. À l'origine de cette guerre civile, une des plus sanglantes du XXe siècle, l'annulation des élections législatives du 26 décembre 1991 qui aurait dû porter au pouvoir les fondamentalistes musulmans du FIS, le Front Islamique du Salut. Un mouvement créé 2 ans plus tôt, et dont les deux principaux dirigeants, Abbassi Madani et Ali Belhadj, réclamaient, comme les intégristes musulmans d'Iran et d'Afghanistan, l'instauration en Algérie d'une république islamiste. Ali Belhadj à Alger, 6 mois avant les élections législatives, le 1er juin 1991.
Nous demandons à Dieu de nous accepter comme martyrs. Je jure que nous ne craignons ni la police, ni l'armée, ni la gendarmerie, ni les avions, ni les chars. Nous n'avons peur que de notre Créateur et nous sommes prêts à mourir en martyrs. Il n'y a de Dieu que Dieu. Dieu est le plus grand et il fait triompher son serviteur. Pour l'État islamique nous vivons, pour l'État islamique nous mourrons.
Christian Troubet et Xavier Offert, bonjour. Alors c'était Ali Belhadj, quelques semaines avant le début en Algérie d'une des guerres civiles les plus sanglantes du XXe siècle. Christian Troubet, vous êtes rédacteur en chef de l'hebdomadaire La Vie qui vient de publier avec Le Monde un atlas des religions dont France Inter est partenaire. Et vous, Xavier Offert, vous avez dirigé aux éditions du CNRS un atlas de l'islam radical. Alors l'islam radical qui a pris dans les années 80, et pas seulement en Algérie, on le sait, une ampleur considérable dans tous les pays musulmans. Pour quelle raison?
Christian Troubet.
Je pense que c'est la conjonction de trois facteurs. Le premier facteur, c'est la démographie, l'explosion démographique dans tous les pays arabo-musulmans, qui débouche sur la pauvreté et sur, en fait, peu d'espoir dans l'avenir. La deuxième raison, c'est des pertes de repères, alors que la mondialisation et surtout l'occidentalisation du monde semble s'installer depuis les années 80. Et puis la troisième raison, c'est peut-être un énième recyclage, en fait, du nationalisme arabo-musulman qu'on connaît à travers différents avatars depuis le milieu du XXe siècle.
Christian, Xavier Offert.
Il y a une année tout à fait cruciale, 1979. En 1979 et en l'espace de quelques mois, vous avez l'arrivée de Khomeini à Téhéran et l'instauration d'une république islamique, certes chiite, mais d'une république islamique à Téhéran. Vous avez l'invasion de l'Afghanistan, pays musulman par une puissance athée, et vous avez la Mecque. Les tribus radicales wahhabites qui, pour certaines d'entre elles, se dirigent vers la Mecque et occupent la plus sainte mosquée de l'islam. Et donc ces trois événements vont provoquer concrètement, dans le concret des choses, au-delà de tous les facteurs de fond dont on vient d'entendre parler, ont provoqué quelque chose qui se produit parfois dans le désert, il pleut, et des graines qui étaient enkystées pendant 20 ans ou 30 ans, brutalement font refleurir le désert. Vous aviez cette idéologie extrême à l'intérieur de l'islam, qui a toujours été très minoritaire et qui l'est encore aujourd'hui. Mais elle était enkystée, elle dormait, il y avait quelques intellectuels, on murmurait des propos extrémistes dans quelques mosquées de la planète, et brutalement tout cela explose en vraie grandeur du fait de ces trois chocs terribles pour la conscience de beaucoup de musulmans à travers le monde.
Alors le mouvement islamiste existait déjà en Algérie, il a participé à la guerre d'Algérie, c'est avec le FLN à partir de 1956, deux après le début de la guerre d'Algérie, et puis il se poursuit, il existe encore après la guerre d'Algérie, après 1962, il se tourne alors contre le pouvoir du FLN, contre la monopolisation du pouvoir par le FLN, dont les intégristes déplorent la dégradation des mœurs, la corruption, la laïcisation aussi de l'Algérie, et demandent un État fondé sur les principes musulmans. Quel est l'état de l'islamisme avant justement la fin des années 80, début des années 90, Christian Troubet? Comment expliquer ce développement de l'islamisme qu'on n'a pas très bien vu en France ou en Occident, alors qu'avant même qu'il ne se manifeste violemment?
Il est discret à cette époque, c'est peut-être pour ça qu'on le voit pas énormément dans ces années-là, mais effectivement, dès l'indépendance, il va s'opposer au système du FLN, il va mettre rapidement en avant la corruption de ce régime, sa militarisation, mais en fait, c'est un discours qui ne dépasse guère les mosquées à l'époque.
Il y a aussi peut-être la situation économique qui peut expliquer donc favoriser ce courant islamiste. En tout cas, on le voit apparaître avec la hausse des prix, avec la crise économique, avec le chômage. À partir d'octobre 1988, 10 jours d'émeute contre le président algérien Chadli Ben Jadid.
Bonsoir. Émeute à Bab El Oued, le président Ben Jadid décrète l'état de siège à Alger. Plusieurs blessés par balle au cours des heures entre les jeunes manifestants et la police. Ordre a été donné aux habitants de rester chez eux. Des appels sont régulièrement diffusés par Radio Alger. En voici un que nos techniciens ont capté cet après-midi.
Communiqué de la présidence de la République. En raison des développements graves que connaît la situation dans l'Algérois, et en exécution des dispositions de l'article 119 de la Constitution, le président de la République a décidé l'état de siège. Toutes les autorités civiles, administratives et de sécurité sont immédiatement placées sous commandement militaire.
Alors ces émeutes d'octobre 88, même si elles n'étaient pas organisées par les islamistes, elles étaient même plutôt spontanées, eh bien elles ont été les plus violentes qu'ait jamais connu l'Algérie depuis la fin de la guerre d'Algérie, depuis 1962. Elles ont fait 600 morts. Est-ce qu'on peut en expliquer les raisons, Christian Troubet?
Je crois qu'elles ont choqué énormément à l'époque parce que, en fait, les Algériens ont vu qu'on s'attaquait à leurs jeunes, puisque c'était majoritairement les jeunes Algériens qui étaient dans la rue, autrement dit la génération d'après la Révolution. Et le pouvoir, le FLN, le pouvoir issu de la Révolution, a tiré sur ces jeunes. tirer à la mitrailleuse dans les rues. Il y a eu 600 tués à Alger. Donc cette jeunesse qui était en fait l'avenir du pays était massacrée sous les yeux de tout le pays. Ça a énormément choqué.
Et puis une jeunesse nombreuse, une des raisons quand même des difficultés économiques de l'ensemble des pays musulmans, mais notamment de l'Algérie, dont la population a triplé entre 62 et la fin des années 80, on est passé de 9 à 25 millions d'habitants, eh bien, c'est peut-être aussi ça qui explique la crise en Algérie, Christian Troubé.
Alors, un Algérien sur deux, aujourd'hui, a moins de 20 ans. Et puis se développait à l'époque ce phénomène des hittistes. Vous savez, les hittistes, ce sont ceux qui tiennent le mur. C'est-à-dire, ce sont ces jeunes qu'on voit dans les rues d'Alger et ailleurs dans le pays, qui sont adossés à des murs. Pourquoi ? Non pas pour le plaisir de tenir des murs, mais tout simplement parce qu'ils n'ont aucune perspective. Le chômage, le trabendo, le petit commerce, mais à part ça, aucune perspective. Et ce sont ces jeunes-là, effectivement, qui vont être massacrés par le pouvoir.
Et puis aussi peut-être un pouvoir dont on déplore la monopolise, enfin un pouvoir, le FLN dont on déplore qu'il monopolise le pouvoir, puisque le FLN est le parti unique à ce moment-là, et au fond, il n'y a pas d'autre solution pour manifester son opposition que les mosquées. Xavier Offert.
Oui, la population, alors il faut pas confondre un certain nombre de facteurs. Premièrement, en général, la population algérienne est plutôt pieuse. C'est un pays qui est attaché à l'islam. Et donc, quand les choses vont mal, on se tourne vers la mosquée, comme dans d'autres religions, on se tourne vers l'église, dans des circonstances comparables. Ensuite, n'oublions pas que le régime instauré par le FLN, en 62, l'avait été avec le soutien explicite de l'Union soviétique, et d'une manière ou d'une autre, il y avait là-bas une forme de socialisme assez rigide, assez planifié, etc. Et les mêmes choses produisant partout les mêmes effets, vous aviez une jeunesse qui n'avait pas de boulot, qui n'avait pas de perspective, qui était menée un peu à la schlag, et qui surtout n'avait pas d'autre consolation en ce pas monde, parce que l'immigration était interdite, que d'aller à la mosquée. Et là, justement, vous avez dans ces mosquées-là des courants radicaux qui sont ceux qui, bien entendu, attirent le plus les jeunes. Voilà.
Alors, conscient de la gravité de la situation, le président Chadli lâche du lest, il modifie la constitution, il supprime, c'est très soviétique, ça c'était la constitution algérienne avant 1989, il supprime le rôle dirigeant du parti, c'est-à-dire le FLN, ce qui va provoquer l'apparition d'une quantité de nouveaux partis ou de partis interdits qui réapparaissent au grand jour, le Front des Forces Socialistes d'Aït Ahmed, le RCD, le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, le MDA aussi de Ben Bella, le FIS bien sûr surtout, qui est créé en février 89, regroupe tous les mouvements islamistes et réclame un État islamique. Hein. C'est, on savait pas, on mesurait pas à l'époque l'importance qu'il pouvait avoir, d'autant qu'il a été créé 2 ans avant sa grande victoire de 91, Xavier Offert. On le voyait pas arriver, au fond.
On le voit pas, mais il est là. À savoir que de Mindanao à un bout de l'arc islamique jusqu'à la Mauritanie à l'autre bout, les groupes islamistes militants, pas forcément terroristes, mais en tout cas, ces gens qui veulent que le monde musulman soit régi d'après directement les principes du prophète avec le Coran comme constitution, ces groupes ont une caractéristique, c'est qu'ils mentent peu, mais qu'ils dissimulent très bien. Et en conséquence de quoi, nous autres, criminologues spécialisés dans les affaires de terrorisme, quand nous allions, vous savez, le Londonistan, l'espèce de grouillement de groupes islamistes à qui on laissait la bride sur le cou à Londres, quand on allait dans des conférences islamistes, le Londonistan, où tout un chacun pouvait aller. Dans les années 80, les frères musulmans louaient des enceintes comme le Zénith, immense, dans lequel ils faisaient des grands meetings pour soutenir l'islam militant. Chaque fois qu'il y avait une conférence, il y avait plus de stands islamistes algériens. Quand on rentrait à Paris, on disait aux autorités françaises, aux gens qu'on connaît, aux gens du gouvernement, on leur disait, vous trouvez pas bizarre? Et je dois dire que la France, pendant ces années cruciales, qui aurait dû avertir le régime algérien lui-même, vous savez que l'homme n'est pas toujours le mieux placé pour savoir ce qui lui arrive à lui-même, donc il aurait fallu qu'il soit prévenu. Et donc pendant cette période-là, on a le sentiment que la France a fait quand même pas mal l'autruche, parce que je vous garantis qu'à partir de 1985, il était patent que quelque chose couvait en Algérie. Et d'ailleurs, si vous me permettez juste une seconde, le premier maquis islamiste, un maquis avec des gens en armes, en Algérie, date de la fin de l'année 86.
C'était Bellamy, je pense, dont vous parlez, qui a été tué, c'était le MIA à ce moment-là, je crois.
Bouyali.
Mustapha Bouyali. Christian Troubé.
Oui, sur le fils, à l'époque, c'est pas tant qu'il dissimule, il dit ce qu'il va faire, mais c'est qu'on le croit pas. On le croit pas. Le FLN, à un mois avant les élections, qu'on va évoquer dans un instant, est persuadé qu'il aura 35% aux élections.
Alors justement, il triomphe d'abord aux élections municipales de 1990, et puis il y a des manifestations importantes qui provoquent l'arrestation de ces deux principaux dirigeants, Abbassi Madani et Ali Belhadj, mais les élections sont bien prévues pour le 26 décembre 1991, et là, aux surprises, le FLN obtient, dès le premier tour, 188 sièges contre 15 au FLN. Le fils obtient 188 sièges contre 15 au FLN, le fils donc qui a le pouvoir à portée de main, lorsque le 12 janvier, après avoir destitué le président Chadli, l'armée crée un haut conseil de sécurité qui annulait le deuxième tour des législatives, France Inter, Claude Guillaumin, le 13 janvier 1992.
Hier, 23h, sur les ondes de Radio Alger.
Il constate l'impossibilité de la poursuite du processus électoral jusqu'à ce que soient réunies les conditions nécessaires au fonctionnement normal des institutions. Il n'y aura donc pas de second tour.
Plus de président, plus de gouvernement, ni d'assemblée, pas de deuxième tour des élections. C'est le vide à la tête de l'Algérie où un haut conseil de sécurité au pouvoir mal défini siège en session permanente. Les chars sont au carrefour des grandes villes d'Algérie, mais aucun incident n'est jusqu'à présent à signaler. Le FIS, le Front islamique du salut, affirme que ces décisions ne changeront rien au fait que le peuple algérien lui a donné la victoire au premier tour.
Abbasi Madani, Walid Ben Hal, Allah, Mansour Jabal Islam, Yelil Inqad.
C'était le 12 janvier 1992, l'interruption du processus électoral qui allait plonger l'Algérie dans la guerre civile. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'armée qui a organisé ce Haut Conseil d'État, hein, c'est ça?
Oui, alors c'est le Haut Conseil d'État. C'est pas très compliqué. L'armée, de toute façon, avait déjà décidé que ça serait ainsi. Donc, pas de second tour. Une pétition signée par 180 officiers supérieurs circule, qui demande la démission donc du président Chadli. Et puis, trois jours plus tard, eh bien, effectivement, le Haut Conseil s'installe au pouvoir et désigne donc à sa tête Mohamed Boudiaf, qu'on est allé chercher au Maroc.
Boudiaf, il faut le rappeler, qui est un chef historique de du FLN à sa création en 54, et puis qui ensuite, après la guerre, comme beaucoup d'ailleurs de dirigeants du FLN qui étaient à la tête de la révolution pour l'indépendance algérienne, avait été placé en exil au Maroc, et on le rappelle au fond pour donner une espèce de légitimité à ce pouvoir qui vient de faire preuve d'illégitimité, puisque ces élections, eh bien, il les interrompt purement et simplement puisque le FLN allait prendre de perdre le pouvoir. Xavier Rofer.
Alors, il faut, quand on parle de ça avec des gens qui ont des postes de responsabilité importants en Algérie, ils nous disent, vous, les Français, vous avez connu ça avec Le Pen arrivant au deuxième tour des élections, on a pris un coup de massue sur la tête terrible, on était confortable dans une espèce de bourgeoisie FLN, tout le monde se connaissait, il y avait des familles, des clans, et tout le monde marchait avec le régime, et on avait un peu, semble-t-il, perdu le contact avec le petit peuple, les gens des bidonvilles, les gens des petits villages, etc. Et brutalement, on a pris ce coup de massue terrible sur la tête, et on a décidé de réagir, mais c'était un petit peu dans, je dirais, dans l'affolement, dans la dernière minute, quoi. Ça faisait quand même plusieurs mois que les choses se tendaient, qu'on se rendait compte que ça allait pas très bien se passer, mais l'électrochoc terrible de la disparition en termes électoraux du FLN et de l'omniprésence du fils a été un électrochoc tel que ça nous a poussé à agir immédiatement. Voilà ce qu'on vous dit dans les sphères du régime.
Ça ne laisse plus au fils, au fond, que la violence. C'est comme ça qu'a commencé cette guerre civile.
Alors d'autant plus, si vous me permettez, que on constate une chose bizarre. Je ne sais pas si c'est l'affolement ou si c'est un petit peu de malice, si vous voulez, mais que dans les semaines qui suivent la décision d'interrompre le processus électoral et de casser le mouvement islamiste, tous les gens qui sont arrêtés en Algérie le sont parmi les dirigeants les plus modérés des islamistes. Et on laisse filer, alors est-ce à dessein? Et donc là j'ai des témoignages directs et précis de ça immanent de la part même dans le GIA. On laisse filer les éléments les plus durs, ceux qui ultérieurement vont créer le GIA.
Et qui vont se manifester par des attentats qui commencent dès le 29 juin 92 avec l'assassinat de Boudiaf qui sera resté chef de l'État très peu de temps. Première victime donc de ces attentats qui allaient ensanglanter l'Algérie pendant plus de 10 ans. France Inter les 29 juin et 26 août 1992. Patrice Bertin.
France Inter.
La plaie algérienne s'est donc rouverte. Assassinat du président Mohamed Boudiaf en fin de matinée à Annaba, l'ex-ville de Beaune. Aucune revendication après cet attentat. Mais bien sûr, on pense aux islamistes du Front du Salut contre lesquels Boudiaf avait engagé une lutte sans merci.
France Inter.
L'horloge principale de l'aéroport d'Alger bloquée sur 10h57. 10h57 ce matin, explosion d'une bombe de très forte puissance devant les guichets d'Air France et d'Alitalia. Au moins 9 morts, une centaine de blessés, parmi lesquels des femmes, des enfants. En une fraction de seconde, le grand hall de l'aéroport Wari Boumediene s'est transformé en charnier.
Que la paix revienne à l'Algérie. Halte au terrorisme, on en a assez, on en a assez.
Nous sommes sortis pour dire aux hommes libres et aux femmes libres de l'Occident qu'il est hors de question qu'ils disent demain qu'ils ne savaient pas. Nous sommes sortis pour qu'ils ne disent jamais nous ne savions pas.
Et c'était les premiers attentats d'une guerre qui allait faire 150 000 morts. Je ne sais pas si on peut parler de guerre, et puis même de ce que peut avoir, par exemple, de suspect l'assassinat de Boudiaf. C'est pas forcément les islamistes qui ont tué Boudiaf.
C'est une période très trouble dans laquelle on joue au billard à plusieurs bandes et où les uns essayent d'infiltrer et de manipuler les autres et vice-versa. Donc même si nominalement c'est un groupe islamiste qui est censé avoir assassiné X ou Y, donc Boudiaf, qui était par derrière et qui tirait les ficelles, c'est difficile à savoir. Mais à la même période, notons bien que avant l'épuration de l'armée, à l'intérieur de l'armée aussi, vous avez des éléments islamistes, donc il y a des jeux à double et triple détente dont on connaît pas bien encore tous les dessous.
Guerre confuse, guerre sans front, d'autant plus que le terrorisme est éparpillé entre plusieurs organisations et parfois même rivales entre elles. Il y a l'AIS, Armée Islamique du Salut, qui est le bras armé du FIS. Et puis alors, ce dont on a le plus entendu parler, le GIA, qui est animé par des Algériens dont beaucoup étaient partis se battre en Afghanistan, d'où le lien encore avec l'Afghanistan, et qu'on appelait les Afghans à ce moment-là. Christian Troubet.
Oui, alors ça c'est la nouveauté, parce que au début ces groupes sont dans les campagnes, sont peu organisés, et puis ceux qui ont été en Afghanistan faire le djihad reviennent et vont structurer ces différents réseaux, vont, pardonnez-moi l'expression, les professionnaliser pour déboucher effectivement sur des attentats de plus en plus terribles, sanglants et opérationnels.
Dont l'enlèvement de 7 moines français du monastère de Tibérine, enlevé le 27
mars 1996. Je suis frère Christian, moine au monastère de Tibérine. Je suis frère Christophe, je suis en bonne santé. Je m'appelle Paul Fabre-Miville, je suis en bonne santé. Je suis le frère Luc, je m'appelle frère Michel, je suis le frère Bruno Le Marchand, le frère Célestin. Nous sommes retenus donc en otage et il est demandé au gouvernement français de libérer un certain nombre d'otages appartenant à ce groupe en échange de notre libération. Cet échange semble être une condition absolue.
France Inter.
Le terrible communiqué du GIA vient d'être confirmé par Alain Juppé. Les 7 moines français enlevés en Algérie ont bien été assassinés.
Nous avons tranché la gorge des 7 moines. C'est même les termes exacts de ce communiqué. Ce qui montre la violence, la férocité de cette guerre qui a touché essentiellement les Algériens parmi les 150 000 victimes. Mais aussi, on le voit, la France, hein, en 94, c'était le détournement d'un Airbus, en 95, les attentats à Paris, 96, les moines de Tibérine. La France aussi est partie prenante, si je puis dire, dans cette guerre, Xavier Hoffer.
Pour une raison évidente, à savoir que les années 94 et 95 sont terribles pour l'Algérie. Même si, côté algérien, on ne s'en vante pas trop côté français, parce qu'il y a le passé, quand les dirigeants algériens, à ce moment-là, parlent avec leurs homologues italiens et espagnols, qui sont cruciaux, parce que c'est par là passent les armes et les hommes et envers les maquis, ils disent qu'à certains moments, dans les maquis autour d'Alger, vous avez entre 14 et 15 000 moudjahidines. C'est énorme. C'est une véritable guérilla, si vous voulez. Alors, et donc, il faut tenir face à ça.
Ce qui frappe aussi, Christian Troubet, c'est la violence, hein, la férocité, on l'a entendu, de cette, la sauvagerie même de cette guerre. Par exemple, en septembre 97, je crois que c'est l'attentat le plus violent de toute cette série d'attentats. C'est tout un village, hein, Bentala, qui a été égorgé, dont a tué la population, 470 personnes, et cela à proximité d'Alger, sans que l'armée intervienne, au point qu'on s'est demandé si elle n'avait pas joué un rôle là-dedans, question trouvée.
Oui, alors les dérives de ces mouvements, c'est lié aussi à la répression. C'est-à-dire au fur et à mesure que les têtes de ces mouvements sont décapitées par le pouvoir algérien. De plus en plus, évidemment, les nouveaux émirs sont des gens de plus en plus de la base, des ruraux, etc., qui de plus en plus sont aussi des gens qui sont plutôt des criminels de droit commun que des politiques ou des religieux. Donc il y a une dérive de tous les mouvements, alors qu'une partie de ces mouvements-là veulent arrêter, eh bien il y a une dérive avec des émirs qui vont massacrer dans les campagnes.
Au total, 150 000 morts, donc jusqu'en 1999, année de l'élection d'un nouveau président, Abdelaziz Bouteflika, France Inter, Henri Charpentier, le 27 juin 1999.
Abdelaziz Bouteflika, le nouveau président algérien, profite de la proximité de la fête de l'indépendance le 5 juillet prochain pour tendre la main aux opposants du régime. Il a annoncé hier à Genève qu'il allait gracier plusieurs milliers de militants et islamistes emprisonnés. Devant les caméras de la télévision suisse romande, Abdelaziz Bouteflika a été très clair sur la politique qu'il entendait mener pour permettre à l'Algérie de retrouver calme et sérénité.
Je ferai la paix. Nous avons 1 million de victimes du terrorisme. Je dois en tenir compte. Et cette tragédie a déjà fait 100 000 morts. C'est un grand problème.
Avec Bouteflika, donc en 99, on indique que c'était une page qui s'est tournée. Il a tenté de réconcilier les uns et les autres. Il y a eu un plan de concorde ou une loi sur la concorde, en fait, qui n'empêche pas la poursuite jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ces dernières semaines, des attentats en Algérie, comme si ça ne servait à rien. Est-ce que, au fond, ça a été efficace, même s'il y en a moins que dans les années 90, Xavier Hoffer?
Efficace, oui, mais on est dans la loi des rendements décroissants. Plus les noyaux sont faibles, plus ils sont petits, plus, dans un pays immense et au milieu d'une population sans cesse plus nombreuse, ils sont difficiles à atteindre. En gros, on connaît parfaitement le profil des 5 derniers jeunes gens qui ont été tués dans des attentats suicides. Ils avaient essayé de partir d'Algérie, ils avaient essayé d'émigrer, ça a raté. Alors, comme ils ne pouvaient pas émigrer vers l'Europe, ils ont émigré vers le ciel. Je caricature, mais c'est un petit peu ça quand même. Donc on a affaire à des desperados, vraiment.
Et puis d'une autre nature, le GIA a pratiquement disparu, s'est dispersé, mais il a été remplacé par une organisation en liaison directe avec Al-Qaïda, qui est le GSPC, le groupe salafiste pour la purification, je crois, et le combat.
La prédication
et le combat.
Ouais. Oui, en deux mots, c'est très difficile de qualifier le groupe en question, parce qu'il est quand même assez flou et mal connu, mais partout et toujours dans le monde, quand un groupe islamiste a abandonné le combat immédiat pour rejoindre Bin Laden, c'était le signe d'un échec sur le terrain.
Christian Troubet, sur la poursuite justement de cette guerre qui ne dit pas son nom en quelque sorte.
Vous évoquez Al-Qaïda et c'est là le gros problème, c'est qu'il y a eu une sorte de franchise de la marque Al-Qaïda aujourd'hui dans les groupes salafistes algériens qui étaient plutôt en reflux et qui trouvent à travers cette publicité d'Al-Qaïda une ouverture sur le monde. Donc sur leurs actions, et on peut craindre effectivement que Al-Qaïda utilise maintenant l'Algérie vis-à-vis de l'Europe comme une tête de pont.
Mais est-ce que ça s'arrêtera un jour? Est-ce qu'on peut imaginer une concorde? Il y a eu tant de sang qui a été versé dans un pays qui en avait déjà souffert pendant les années 50 et 60. C'est assez pathétique ce destin d'Algérie. Oui.
Je reviens à ce que je disais au tout début de l'émission, c'est-à-dire que tant qu'on ne sera pas intéressé à la problématique de la démographie, de la pauvreté, de la perte des repères identitaires et de traitement du nationalisme, on en sera toujours au même point.
J'avais refaire.
Enfin, ça va quand même bien mieux. On peut se promener en Algérie et aller dans des endroits où il n'était pas question d'aller encore il y a 2 ou 3 ans. Donc, on a affaire à une situation où de plus en plus des groupes isolés, partis dans la nature, deviennent de plus en plus difficiles à traquer, si vous voulez. Telle est la logique de la difficulté actuelle.
Merci Xavier Refer, merci Christian Troubet. Je rappelle que 2000 ans d'histoire était partenaire aujourd'hui de l'Atlas des religions, La vie, le monde, qui est en kiosque depuis le 4 octobre. À lire aussi l'Atlas de l'islam radical, présenté donc par Xavier Refer, qui était mon invité, et publié aux éditions du CNRS. Vous avez pu entendre des extraits du documentaire Algérie 1988-2000, Autopsie d'une tragédie, de Malik Ait Aouda et Séverine Labat, disponible en DVD aux éditions de la Compagnie des Phares et Balises. Mais tout de suite et jusqu'à vendredi, 2000 ans d'histoire vous propose, vous le savez, de gagner Éphéméris, un livre coédité par France Inter et accompagné d'un CD-ROM. Pour gagner Éphéméris, il faut répondre à la question suivante. Le 24 octobre 1940, Hitler rencontra Pétain à Montoire. Et c'était le début officiel de la collaboration. Qui était vice-président et numéro 2 du gouvernement à cette époque? Réponse A, François Darlan. Réponse B, Léon Blum. Réponse C, Pierre Laval. Pour jouer par SMS, tapez sur votre portable mot-clé histoire, suivi de votre réponse. A, donc Darlan. B, Blum. Ou C, Laval. Et envoyez le tout au 6 20 30, 35 centimes l'envoi, plus le coût d'un SMS. Vous pouvez retrouver cette question et des informations complémentaires sur le site franceinter.com.
C'était 2000 ans d'histoire à la technique Éric Morin et Rémi Quincet. Documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Sophie Gidry. Une réalisation de Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, à l'occasion de son premier vol commercial, l'Airbus A380 avec Éric Orsenna.
25 millions, 26 999 999, et je rajoute 1 euro qui fait 27 millions. Donc, vendredi, euro million et un peu moi-même, mettons en jeu près de 27 millions d'euros.
Estimation non garantie des gains à partager en un de vos règlements.
Il n'y a qu'euro million pour gagner autant de millions.
Euro million est un jeu de la Française des Jeux.
Alors, message radio EDF pour les professionnels, 30 secondes. Vous croyez qu'en 30 secondes, je vais expliquer comment EDF peut simplifier la vie des professionnels et leur proposer en plus des solutions économes en énergie? Alors, ce ne serait pas très pro.
Pour vous accompagner dans vos choix énergétiques, appelez plutôt votre conseiller EDF Pro au 0810 333 776, prix d'un appel local, ou consultez edfpro.fr.
L'avenir est un choix de tous les jours. EDF.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Dans quelques instants, vous pouvez retrouver Mathieu Vidard et sa tête au carré. Nous parlerons aujourd'hui des biocarburants avec Fabrice Nicolino. Mais tout de suite sur France Inter, il est exactement 14h. Les informations, Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour. Une éco-pastille pour les voitures, c'est l'une des nouveautés sorties du Grenelle de l'environnement qui est entrée aujourd'hui dans sa phase finale. Une éco-pastille sous forme de bonus-malus sur les voitures. Un autre souhait émis par les participants, le gel des capacités routières et aéroportuaires de la France. Pendant 2 jours, 80 représentants des ONG, collectivités locales, syndicats et gouvernements donc doivent lancer la rupture écologique voulu par Nicolas Sarkozy. Et de leur côté, les eurodéputés ont demandé que les émissions moyennes de dioxyde de carbone des voitures soient limitées à 125 grammes de CO2 au kilomètre d'ici à 2015 au lieu de 160 grammes actuellement. Ce rapport sans pouvoir contraignant prévoit des pénalités financières pour les constructeurs automobiles qui ne réduiraient pas.